dans nos cultes, il y a une place pour la parole de Dieu, il y a une place pour nos prières, et il doit y avoir une place pour la communion. Place pour la parole de Dieu. 20 ans après le passage du Seigneur Jésus comme une personne, 20 ans après ce miracle extraordinaire du don de sa vie, suivi de la résurrection du Seigneur Jésus et de la Pentecôte, 20 ans après, les disciples se réunissaient. En ce temps-là, la synagogue et l'église chrétienne n'étaient pas encore tout à fait séparées. Ça s'appelle le judéo-christianisme. Nous avons la chance d'avoir une lettre qui est la lettre qu'a envoyée Jacques. Jacques, un des frères du Seigneur Jésus. Jacques, un des piliers de l'Église de l'époque. Dans l'épître de Jacques, il y a quantité de pensées du Seigneur qui ne sont pas, comme l'Évangile, quelque chose d'extraordinaire tout de suite. Des sucres rapides, du miel, du sucre. Mais dans l'épître de Jacques, il y a des sucres lents. Vous savez à quoi ça sert le sucre lent? À durer. Pour un gros coup de force, il faut du sucre rapide. Mais pour marcher longtemps, il faut du sucre lent. 20 ans après, on marche longtemps déjà. Et pourtant, nous sommes 2000 ans après l'Évangile. Je dresse le cadre, c'est nécessaire. Ça ne va pas si bien. On est en pays occupé, en Judée, à Antioche, en Palestine, en Israël. Occupé par des païens qui s'appellent les Romains. Deuxièmement, ça ne va pas si bien parce que tout le judaïsme de l'époque n'a pas reçu Jésus comme le roi Messie. Et dans ces synagogues qui s'appelaient assemblées, on se réunissait en semaine, mais on allait encore au temple qui n'était pas encore démoli. On allait à la synagogue parce que c'est là qu'on avait des gens qui pensaient en un Dieu. Mais parmi ceux-là, il y en a qui disaient, votre Jésus, ce chemin de la croix, parlant de Dieu, mais c'est un échec, c'est pas une réussite. Parmi ceux-là, il y en a qui utilisaient la force pour se battre contre le mal. Et petit à petit, les disciples du Seigneur Jésus dans ce judéo-christianisme étaient persécutés par leurs propres frères et sœurs, mis au banc des assemblées qui s'appelaient les synagogues à l'époque. Ça n'allait pas si bien. Comment est-on disciple du Seigneur Jésus quand ça ne va pas si bien? C'est une bonne question. Ça peut être utile éventuellement. Quand ça ne va pas si bien, chez moi, il se passe ici, pas seulement ici, mais ici, des choses bizarres. Je rumine, je marmonne, je râle. Ça se passe ici parce que chez moi, c'est l'endroit du foie et de l'estomac. Et quand ça râle, je ne réagis pas tellement toujours comme un disciple du Seigneur Jésus devrait le faire. C'est pas vrai, frères et sœurs? Et des fois, ça sort ici autrement que ce que je voudrais alors que je suis un disciple du Seigneur Jésus. Il en allait exactement de même, du temps où Jacques a écrit sa lettre. Nous allons faire la lecture. Lecture 2, où nous en sommes arrivés, Jacques chapitre 1. Sachez-le, mes frères bien-aimés, Jacques chapitre 1, verset 19, que nul ne néglige d'être prompt à écouter. Comment ça va pas bien, je suis pas prompt à écouter, je peux vous dire. Lent à parler, ou à décocher, c'est pareil. Lent à se mettre en colère entretenue. Le mot entretenu, c'est le mot grec orgé. Il y a thermos, c'est petite colère passagère, il y a orgé. quand ça dure, lent à se mettre en colère entretenue. Vous y êtes ? Vous avez vu comme la parole nous rejoint subitement ? Car la colère de l'homme ne réalise pas le plan de Dieu ou la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, rejetant. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous. Elle est capable de vous sauver la vie. Mais soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement les auditeurs de la parole qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de sa naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché vers la loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant. Celui-là, celle-là, féminin, c'est marqué masculin. C'est juste, mesdames, pour que vous ne vous sentiez pas exclus. Cette personne-là le trouvera le bonheur dans ce qu'elle réalisera. Cette personne-là trouvera le bonheur dans ce qu'elle réalisera. Si quelqu'un se croit religieux, il y a des adeptes ici. Si quelqu'un se croit religieux, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Qu'est-ce que vous faites ici? Si quelqu'un se croit religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion qui est intégrale, pure, il y a marqué, et sans tache devant Dieu, le Père, la voici. De louanges, ça doit être lesquels? C'est pas de ça dont il est question. La dénomination, ça doit être laquelle? C'est pas de ça dont il est question. La manière de baptiser, ça doit être laquelle? C'est même pas de ça dont il est question. Le pasteur, il a des diplômes ou pas? C'est pas de ça dont il est question. La religion, les charismes, c'est même pas de ça dont il est question. Le pédigré, le standing, c'est pas de ça dont il est question. La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, la voici, deux points. Visitez les orphelins et les veuves dans leur détresse. Se garder du monde pour ne pas se souiller. Jusqu'à ici, je sais qu'il y a des visiteurs qui vont partir apporter la Sainte Cène, que Dieu les bénisse. Là, voici la religion pure et parfaite. Ensemble ces textes. Le sujet que nous avons pendant ces 2-3 mois, c'est, d'après la parole de Dieu, quelles sont les marques d'une foi authentique. Ici, maintenant, l'accent que nous voulons retenir de la part du Seigneur, c'est quand Dieu demande la bonté, on la met en route. On n'écoute pas seulement la bonté, on la met en route. Prie, Seigneur, sur moi. Laissez-moi vous dire, prie en moi. En route la bonté. Vous êtes comme moi ? Vous avez des fois envie d'envoyer les autres paître ? Envoyer paître, ça veut dire en langue allemande, envoyer les autres loin. Dieu demande la bonté, on la met en route. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est les épreuves, j'en ai parlé. La nécessaire besoin de la sagesse dans l'épreuve, ça vient de Dieu. La manière dont on voit que les gens ne vont pas bien, c'est qu'ils gardent les richesses pour eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont chrétiens évangéliques, mais ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils font les bons cantiques, mais ils sont centrés sur eux-mêmes. J'ai appelé ça la tristesse mondaine. Je vis comme tout le monde, mais j'ai des prétentions extraordinaires. Je veux bien que ça brille sur moi, mais pas en moi. Parce qu'en moi, il y a autre chose qui a pris place. Vous comprenez ? Et c'est là que Jacques nous adresse une parole intéressante. Il nous rejoint là. Les tentations, comment elles fonctionnent, nous l'avons vu jusqu'à présent. Et nous avons le droit d'attendre de Dieu la transformation qu'il a promise, le début. Quand nous avons reçu l'évangile dans nos cœurs, le Saint-Esprit est venu poser un germe. Et ce germe ne demande pas d'autre chose que de devenir une plante et un fruit. Maintenant, ce que nous voyons ensemble, c'est du verset 19 au 27, la parole de Jésus est faite pour être mise en pratique, pas pour être admirée. Alors, ça passera par moi. Contre le sida, on avait un slogan, ça ne passera pas par moi. Mais ici, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le sida, c'est le royaume de Dieu. Seigneur, tu me connais. Je veux que ça continue à passer par moi. Vous êtes savants, vous le savez, mes frères bien-aimés, pourtant que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère entretenue. Car la colère de l'homme ne réalise pas la justice de Dieu. C'est quoi la colère ? C'est quand j'explose à la figure de l'autre, et même si j'ai raison, j'ai tort. Pourquoi ? Parce que ma colère, elle ajoute du mal au mal, même si j'ai raison. Est-ce que c'est pas vrai ? Et j'ai pas souvent raison. Ça m'arrive, hein ? Si. Mais la colère, c'est une question que j'ai pas traitée. Et si je dis, je suis centré sur moi, Dieu il m'a abandonné dans mon épreuve, sinon Dieu serait présent et m'aurait dispensé de l'épreuve, je suis centré sur moi, et si elle explose celle-là, ou si elle se manifeste par la bouche, en général ça se manifeste par la bouche, non ? Enfin, chez moi. Je n'ai plus de rapport bienveillant et aimant envers autrui, j'ai juste raison. Alors, ce qui est terrible, c'est que je me sers de la parole de Dieu pour avoir raison contre l'autre. La parole de Dieu n'est pas faite pour ça. Avoir raison contre l'autre, la parole de Dieu n'est pas faite pour ça. La parole de Dieu, par l'évangile, elle est faite pas d'abord pour avoir raison, mais pour aller plus loin, pour aimer. La parole de Dieu est faite pas pour avoir raison contre l'autre, mais pour avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit. Notre maître Seigneur Jésus a vécu cela. S'il est mort à la croix, c'est parce qu'il a aimé, parce qu'il a révélé en lui, en prenant sur lui. Ainsi débarrassé de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, il faut déjà s'en débarrasser. Je ne peux pas m'en débarrasser si je ne dis pas c'est mauvais Claude, je ne veux pas ça. Si je ne prends pas une position de distanciation vis-à-vis de ce qui se passe en moi. Je ne peux pas, il faut s'en débarrasser, ainsi débarrasser. Ainsi débarrasser de tout débordement de méchanceté, accueillez, c'est le deuxième verbe, débarrassez, accueillez avec douceur la parole plantée en vous. C'est quoi cette parole plantée en vous? C'est pas votre parole de bonne moralité, je serai un chic type à peu près suisse, moyen, bien. Ça suffit pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, débarrassé, je prends une distance. J'accueille le Seigneur Jésus avec son commandement d'amour. Dimanche dernier, nous l'avons entendu par Christophe Théhay. Est-ce que je suis le prochain de celui qui est dans le besoin? Ici, nous n'avons pas seulement cet commandement d'amour, mais nous avons l'invitation de prendre au sérieux ce qui se passe en nous et de nous exposer à la parole de Dieu pour qu'elle fasse ce que seulement la parole de Dieu en Jésus peut faire, mettre une graine qui va grandir si je la laisse grandir. La parole plantée en vous pour qu'elle porte un fruit spécifique, y compris quand ça ne va pas bien. Vous n'êtes pas preneur, frères et sœurs? Y compris quand ça ne va pas bien. Capable de vous sauver la situation. Mais soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement les auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. J'ai trouvé un tag en Guadeloupe, pays où il y avait les anciens esclaves qui étaient là pour travailler pour que nous ayons des produits à bon marché à l'époque. D'accord? En Guadeloupe. J'ai vu ce tag, j'ai vu que celui qui a dessiné cette gueule, cette bouche, pardon, il y a un tas de choses qui sortent. Vous voyez, du blanc, du rouge, du noir. Rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté, ça veut dire avoir l'honnêteté de laisser monter ce qui est en nous. Il y a trop de gens, ils sont chrétiens superficiels. Ils ne prennent pas de temps dans le silence régulier, quelque part dans la journée, pour dire qui je suis quand j'ai toutes mes pensées. Se retirer, avoir le quart d'heure calme. Dans le temps, on disait le moment de piété. Peu importe comment, on le dit pourvu que ça arrive. Rejeter toute souillure, ça veut dire laisser monter en moi qui je suis pour que l'Évangile puisse le traiter au fond de moi. Accueillez avec douceur la parole de Jésus, de l'Évangile planté en vous. J'aime ça. Ce qui va pousser, c'est pas moi et ma bonté. Ce qui va pousser, c'est le projet de Jésus par l'Esprit planté en nous. Mais ça n'arrive pas magiquement. Ça arrive seulement quand je l'entretiens, quand je ferai une bonne habitude de me situer. Frères et sœurs, vous qui vivez en communion ou en couple, vous savez que ce n'est pas magique. On n'est pas magiquement débarrassé de notre vieille nature une fois qu'on est en projet communautaire. Vous le savez, ce n'est pas donné. Hein. Ça marche quelques jours, si ça va bien. Après, il faut autre chose, il faut du sucre. Accueillez ce don de Dieu. Mathias, je t'aime. Redites-lui, ça, c'est la graine d'amour qui va grandir pour que nous soyons à notre tour aimants. Ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Votre Père est aimant vis-à-vis de vous, j'aimerais vous le redire, c'est redit et redit dans l'Écriture. Maintenant, c'est l'histoire du miroir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du miroir ? Si quelqu'un écoute la parole, ne la réalise pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il a de sa naissance. Est-ce que je peux vous demander, frères et sœurs, juste d'être honnête une demi-minute? Combien d'entre vous se sont regardés dans le miroir ce matin? Combien se sont pas regardés dans les miroirs ce matin? Maintenant, la deuxième question est plus difficile. Pourquoi l'avez-vous fait? Pour se raser. Tu peux te raser sans. Pourquoi l'avez-vous fait? Oui, mais dites-moi, pour voir. Mais si c'est pour voir comme vous êtes beau, à quoi ça sert de vous mettre devant un miroir? Vous ne le saviez pas? Non. C'est pour voir qu'est-ce qui serait à corriger éventuellement pour être plus beau.
Non ? C'est pas vrai ? Si j'ai la cravate comme ça et que je viens, vous allez penser certaines choses. Ma femme aussi d'ailleurs. C'est pas vrai. Si j'ai du rouge à lèvres qui monte sur la joue, ça va pas non plus. On regarde un miroir pour voir là où je peux l'améliorer. Si je regarde dans un miroir et que je vois que là il y a une question, une colère qui n'a pas été traitée, j'ai fait du mal même si j'avais raison, et que j'oublie, la parole ne peut pas me corriger parce que j'étais pas honnête envers moi. Une des premières fonctions de la parole de Dieu, c'est de montrer qui je suis, comment je fonctionne. Et le Seigneur veut la transformation, il ne veut pas juste le pardon. Dieu ne veut pas qu'une église d'un tas de sauvés. C'est bien, un tas de pardonnés, c'est beau. Mais quand ce tas de pardonnés ressemble au monde qui est perdu, ça ne va pas. Il faut que l'Esprit de Dieu poursuive la transformation. Celui qui s'est penché sur une loi parfaite, c'est-à-dire qui s'est confronté à Jésus. Et avec Jésus, ce qui est extraordinaire, non seulement on est accueilli et aimé, mais en plus on voit très bien là où nous ne ressemblons pas à Jésus. Jésus, l'homme libre, l'homme heureux. Celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté ou de la liberté totale, qui s'y est appliqué, pas seulement en auditeur distrait, mais en réalisateur, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. J'aimerais vous redire ici, tout le monde cherche après ce bonheur. Mais on le cherche à des endroits où il ne se trouve pas. Le bonheur au fond, même dans l'épreuve, ça existe ? Qui a dit que le bonheur ne se trouvait que quand tout va bien ? Le bonheur dans la réalisation de la loi de Dieu. Mesdames, j'avais la même chose en version féminine, je vous en fais grâce. Messieurs, qui je suis ? Quand je suis intégralement devant le Seigneur. Il y a juste un problème de verre déformant là. C'est pas un problème d'être qui on est par la grâce de Dieu, je peux l'être. Mais à un moment donné, le Seigneur m'accueille pour que je devienne à l'image du prototype d'une création guérie, à l'image de Jésus par la puissance du cadeau de Dieu. Qui est le Saint-Esprit. Il a oublié de quoi il avait l'air vaine et sa religion protestante évangélique. C'est-à-dire pour du vin. Je dirais même, c'est pire, parce qu'il montre au monde que ce n'est pas vrai. On restera des pécheurs jusqu'à la fin de notre vie, mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous n'avons pas à accueillir l'Esprit de Dieu tous les jours pour que la transformation continue compte tenu de ce que nous sommes. Regardez déjà Ézéchiel 33, je le lis tout courtement, sans grand commentaire. Déjà, les prophètes de l'exil avaient ce même problème avec Israël. Pourquoi Israël faisait ça ? On connaîtra que je suis le Seigneur quand j'aurai fait du pays une solitude désertique. Tellement Israël, le peuple hébreu, prétentieux, extraordinaire, mais il vivait comme tous les païens du monde. On connaîtra que je suis le Seigneur quand j'aurai fait du pays une solitude désertique à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Écoute, fils de l'homme, les gens de ton peuple, parlant les uns avec les autres, chacun avec son frère, disent « Venez, écoutez, quelle parole vient de la part du Seigneur au temple. Ils viendront à toi comme au rassemblement du peuple et s'assieront devant toi, eux, mon peuple, ils écouteront tes paroles, mais... » Mais, la même chose que chez Jacques, ne les mettront pas en pratique, car leur bouche est pleine d'eux-mêmes. Leur bouche est pleine de leur passion qu'ils veulent assouvir. Leur cœur suit leur profit égoïste. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Où est leur cœur ? Leur cœur religieux, il est où ? Au fond, en train de courir après une idole, tout en prétendant l'adoration du Dieu éternel. Vous comprenez ? Ils écoutent tes paroles, mais personne ne les met en pratique. Quand ce que tu dis arrivera, et voilà que cela arrive, ils connaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Frères et sœurs, nous voulons éviter cette catastrophe. pays, une solitude désertique où règnent les chacals et les vipères. On veut éviter ça. On veut prendre au pied de la lettre l'esprit et la parole de la mise en pratique de l'amour du prochain inconditionnellement. Nous sommes nés de nouveau pour la bonté. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, alors ça sert à rien. Et il continue, la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, la voici, être décentré et attentif à la misère d'autrui. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus tout à fait les orphelins et les veuves, ce sont dans le peuple hébreu, les orphelins et les veuves, c'est ce qu'on faisait avec les dîmes pour les aider. D'accord ? Aujourd'hui, il faudrait voir qui est dans la détresse autour de nous. Comment on peut voir l'authenticité d'un vrai mouvement charismatique ou évangélique ou protestant ? Dites-moi, c'est quand on est décentré, capable d'aimer dans leur détresse et se garder de la mentalité repliée sur elle-même pour ne pas se souiller. Souiller, ce n'est pas d'abord sexuel, ça peut l'être. Souiller, ça peut être économique. Souiller, ça peut être le travail et ma carrière qui devient mon Dieu. J'aimerais arriver à des conclusions, c'est le temps. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous sauvés et affranchis ? Pour vivre en bonne entente, pour vivre d'une manière aimante, c'est ça le projet de Jésus. Nous sommes faits pour ce qui est religieusement appelé la communion, la considération de tous, quels qu'ils soient. Frères et sœurs, ne manquons pas d'entraînement en la matière quand les occasions se présentent. Alors, je termine là-dessus. C'est comme dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux, c'est une invitation à la joie au fond, même dans l'épreuve. Celui-là qui pratique cela. Je n'ai pas dit qu'il le sait. Trouvera la profonde satisfaction de vivre. Ce après quoi nous courons tous en Suisse et dans le monde. Celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Je vous invite à un moment de prière. Ta parole se donne et nous rejoint. Ta parole est une lumière sur notre chemin. Tu es le chemin. Tu es la vérité qui sauve. Tu es la vie au fond. Et pour toujours, nous te rendons grâce, Seigneur. Comme Marie, comme Joseph, comme les disciples, nous voulons te dire, nous sommes là, Seigneur. Aide-nous à être disciples. Amen.